Voilà, deuxième soirée, victoire sur nos pensées. Ah, pensée, le tout petit mot, mais qui peut être une sérieuse puissance. Il y a tellement à comprendre sur le mécanisme, les mécanismes de la pensée. Il y a tellement à comprendre sur ses enjeux, il y a tellement à comprendre sur les solutions. On était arrivé à ce texte hier soir, on avait conclu avec ça. C'est la parole de Dieu. Toutes nos pensées, sans exception, doivent être passées au filtre de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la pensée de Dieu nous dit si ce que nous pensons est bon, si ça doit être conservé ou si ça doit être rejeté. C'est une parole qui est vivante. Elle partage, regardez, ce qui est de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire ce qui est de l'homme et ce qui est spirituel, ce qui est de moi et ce qui est de Dieu. Elle juge, elle statue, elle se prononce sur les sentiments et sur les pensées de notre cœur. Et toutes nos pensées doivent être identifiées, passées au filtre de la parole de Dieu, pas seulement étouffées, mais elles doivent être aussi changées, transformées par la parole de Dieu. Et c'est son but, la parole de Dieu, c'est ce que j'ai dit en conclusion hier soir, la parole de Dieu est là, non pas seulement pour nous faire connaître le cœur de Dieu, ce qui est déjà extraordinaire, de connaître Dieu, mais de nous amener aussi à penser comme il pense. Plus le temps passe, frères et sœurs, ici ensemble, plus on se connaît. On se connaît de mieux en mieux. Mais ce n'est pas, par exemple, parce que je connais Pascal que je sais qui elle est, je sais où elle habite, je sais avec qui elle est mariée, je peux parler de ses enfants. Il y a des tas de choses que l'on connaît les uns des autres. Ce n'est pas pour autant que je pense comme elle ou qu'elle pense comme moi. Connaître quelqu'un, c'est une chose, mais ensuite, penser comme cette personne pense, avoir les mêmes raisonnements, la même logique, ça c'est totalement autre chose. La parole de Dieu n'est pas là seulement pour m'amener à comprendre qui est Dieu et à me donner des informations sur Dieu. Elle est là pour m'amener à penser comme Dieu pense, à avoir son raisonnement, à avoir sa vision des choses, voir les choses comme lui il les voit. En parler comme il en parle, les regarder comme il les regarde, les considérer comme il les considère. Nous continuons ce soir. J'aimerais vous montrer ce soir que la pensée de Dieu nous libère de forteresses spirituelles. L'apôtre Paul dit dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 5, il dit ceci: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre la connaissance de Christ, et nous amenons, j'ai pas mis la fin du verset, désolé, et nous amenons toute pensée, n'importe quelle pensée, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce texte est d'une très grande, même d'une extrême richesse. Ici, Paul met en évidence le combat, je vous en ai parlé hier, de ce combat spirituel, le combat d'esprit spirituel, esprit contre esprit. Pensée contre pensée, la pensée de Dieu contre la pensée de l'ennemi, la pensée de Dieu contre mes pensées vaines et mauvaises. Et dans ce combat d'esprit, de pensée spirituelle, Paul met en évidence ici le combat entre le ministère de la parole, entre la parole de Dieu et les pensées humaines. Ici, Paul, dans sa pensée, met en évidence que nos pensées sont des forteresses. C'est ça que ça veut dire. Nos pensées sont en réalité comme des forteresses qui nous maintiennent captifs. C'est pour ça que j'ai pris l'image de cet homme qui est bien au fond de sa prison, bien au fond du trou, et bien seul dans sa prison derrière ses barreaux. Dans la version grecque, dans l'original, ce qui est intéressant, c'est que nous renversons les raisonnements. Le mot raisonnement signifie, en grec, c'est logismos. Logismos, c'est-à-dire littéralement la logique, le système de pensée, l'engrenage, la façon de penser, la façon de raisonner. Nous renversons la logique humaine, nous renversons le système de pensée humain, nous renversons cette façon de raisonner humaine qui en réalité est une véritable prison. Le mot, un petit peu plus loin, nous renversons les raisonnements et tout, regardez bien, auteur. Le mot auteur dans le grec est très intéressant aussi, c'est upsoma. Ce mot signifie, il désigne non seulement quelque chose qui est très haut, très élevé, mais aussi quelque chose qui est très épais, faisant ainsi allusion, faisant référence à des murailles, à des forteresses, des hauteurs, upsoma, quelque chose qui est très haut, que l'on ne peut pas franchir, et quelque chose qui est très épais. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on sait très bien que les Corinthiens sont des chrétiens. Paul écrit pas à des inconvertis. Paul écrit à l'église de Corinthe, il écrit à des chrétiens et il explique à ces chrétiens que leurs pensées peuvent être des hauteurs, quelque chose de très haut, quelque chose de très épais. Il leur dit, vos pensées peuvent être comme de véritables forteresses qui vous empêchent de connaître véritablement Dieu, même si vous êtes arrivé au salut par la foi en Jésus-Christ. Après le salut, il y a tellement à vivre et à connaître avec Dieu. Et Paul leur dit, si vous n'allez pas plus loin avec Dieu, c'est parce que dans votre cœur, vous avez un système de pensée qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Et ce qui fait que vous n'allez pas plus loin dans votre vie personnelle avec Dieu ne sont pas les circonstances de vos vies ou les circonstances, tout ce qu'il y a autour de vous, à l'extérieur. Mais ce qui vous empêche d'aller plus loin avec Dieu, c'est votre logique, c'est vos pensées humaines, c'est votre façon de raisonner, c'est cette forteresse qui est là à l'intérieur, qui est dure, qui est haute, qui est épaisse, et c'est ça qui vous empêche d'aller plus loin avec lui. Frères et sœurs, et chers amis, les véritables forteresses ne sont jamais à l'extérieur. Les véritables forteresses, elles sont là. Ce qui empêche une église d'aller de l'avant et de se développer, ce ne sont pas ces murs matériels de pierre. Ce qui empêche une église d'aller plus loin, ce sont les murs qu'il y a à l'intérieur de son cœur. Ce sont les murs qu'il y a dans les raisonnements, dans les pensées. Quelqu'un me disait encore aujourd'hui, c'est incroyable, c'est instinctif, on ne s'en rend pas compte, mais c'est bizarre comme en France, on met le mot petit partout. On va prendre un petit café. On va passer un petit moment, ce soir à la réunion, on a passé un bon petit moment ensemble. On va avoir un petit temps de prière. Et on a toujours des tas de choses comme ça qui sont petites. On ne s'en rend pas compte parce que c'est une façon de penser, c'est une façon de raisonner, c'est une façon de s'exprimer. Mais en réalité, tout dans la parole de Dieu me tire, me pousse, veut renverser des raisonnements et m'amener à voir les choses en beaucoup plus grand. Mais moi, je suis bien dans mes 4 mètres carrés de vie spirituelle. C'est vrai que je suis enfermé. C'est vrai que là, dans cet espace que vous voyez sur la photo, je ne vis pas grand-chose. C'est vrai que je ne vais pas loin. C'est vrai que je tourne toujours en rond, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes raisonnements, dans les mêmes limites, dans les mêmes défaillances, dans les mêmes échecs, dans les mêmes impossibilités. Mais au final, c'est un peu rassurant parce que mon espace, je le connais très bien. Je sais que là, ça n'ira jamais plus loin. Je sais que là, ça passera pas. Je sais que là, c'est pas possible, c'est pas de ma faute, c'est pas possible, frère. Je sais que là, c'est vrai qu'on ne va pas loin, mais en même temps, des fois, ça peut nous rassurer. Mais la vérité, c'est qu'on est dans des prisons de pensée, dans des prisons de raisonnement. Les murailles sont à l'intérieur de nos cœurs. Ce sont elles qui nous empêchent de progresser, d'avoir des victoires. Ce ne sont pas les circonstances. Ce sont nos pensées qui nous enferment. Ce sont nos pensées qui nous maintiennent captifs. Ce sont nos pensées qui nous paralysent. Ce sont nos pensées, on ne sait pas pourquoi. Mais on a tous pensé ça au moment où il fallait ouvrir sa bouche pour témoigner à un ami, un collègue, un voisin, un membre de famille, un ceci, un cela. Lui, il est dur. Hein. Ah non, mais lui, il est dur, lui, non. Ah, mais lui, il se convertira jamais. Lui, il est dur. Ah, ben non, je peux pas. Ah, mais lui, il m'écoutera pas. Qu'est-ce que vous en savez? Qui vous a mis dans la tête la pensée que cet homme, cette femme, était trop dur? Qu'est-ce que vous en savez? Et il y a des tas de moments où, rien que comme ça, dans notre vie de tous les jours, on est entre quatre murs, on arrive, on voit une personne. Ah, non, pas lui, non, pas lui. Je change de trottoir. Dites-moi, le récit de Saul de Tarse, qui est foudroyé par la grâce de Dieu sur le chemin de Damas, c'est une histoire pour endormir les gamins le soir ou pour occuper les moniteurs le dimanche matin? Ou c'est un texte biblique pour me dire qu'il n'y a personne qui soit trop dur pour que Dieu atteigne son cœur? Comment est-ce que je pense? Comment est-ce que je raisonne? Comment est-ce que je regarde les autres? Et on pourrait appliquer ça à tous les domaines pratiques et imaginables de notre vie chrétienne. Alors c'est inconscient, ça nous colle à la peau, ça peut, d'où ça vient, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais ça peut venir, notre système de pensée peut venir de notre éducation, ça peut venir de notre entourage, ça peut venir de nos expériences passées, ça peut venir de nos blessures d'enfance, des traumatismes passés, ça peut venir d'une culture, ça peut venir de nos échecs, ça peut venir des dires des uns, des autres, ça peut venir de tellement de choses, mais peu importe d'où ça vient, la réalité est là. Et c'est pour ça que Paul dit, nous sommes appelés, ce que la parole de Dieu veut faire, c'est de renverser ces raisonnements. Parce que si je reprends mon exemple de tout à l'heure, objectivement parlant, qui vous empêche de parler de ce que vous avez vécu avec Jésus à n'importe qui? Qui vous en empêche concrètement? Certainement pas en France, il n'y a pas de loi qui interdise de témoigner de Jésus-Christ. Qui m'empêche de dire ce que Jésus a fait pour moi? Après qu'il accepte, qu'il n'accepte pas, qu'il se moque, j'en sais rien, ça appartient à Dieu, ça ne m'appartient pas à moi. Qu'est-ce qui, objectivement parlant, m'empêche de dire à une personne « Ce que j'ai vécu avec Jésus était extraordinaire, s'il l'a fait pour moi, il veut le faire pour toi. » Eh bien, la seule chose qui m'en empêche, c'est la forteresse de raisonnement qui est à l'intérieur de mon cœur. C'est pour ça que la parole dans le livre des Jérémie est considérée, est appelée comme un marteau. Un marteau qui brise le roc, qui renverse, qui brise le roc, ce rocher dur de nos pensées, de nos raisonnements. Et ici, Paul lui prend cet exemple de renverser ce système de raisonnement, cette façon de penser, cette logique humaine, ces hauteurs qui nous enferment en réalité. Et la parole cherche toujours à renverser cela en nous. Alors des gens vont dire, mais je comprends pas, pourtant je lis la Bible. D'autres diraient, je vous assure frère, hein, je la lis tous les jours. Oui, on peut lire la Bible et malgré ça être quand même tenu en échec dans différents domaines de notre vie. On peut lire la Bible tous les jours depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, plus. Et pourtant avoir vu si peu de progrès, si peu de victoires, si peu de changements, si peu de transformations intérieures, si peu d'assurance, si peu de conviction, si peu d'enthousiasme, si peu d'épanouissement. Lire la Bible, c'est une chose, mais penser comme Dieu pense, ça c'est autre chose. Et ce n'est pas une option, c'est vital, c'est indispensable. Il faut que quand je lis la Bible, je sois là non pas pour effectuer un devoir religieux, mais qu'au fond de mon cœur, il y ait cette soif de dire « Seigneur, que tu m'aies parlé avec un verset en 3 minutes, ou que tu m'aies parlé au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, j'en sais rien, c'est votre problème, je ne veux même pas le savoir, avec 10 chapitres. Ce que je veux, Seigneur, c'est que quand je ferme ma Bible, je pense comme tu penses. Seigneur, donne-moi ta façon de voir. Seigneur, donne-moi ta pensée. Et c'est indispensable, quand j'ouvre la Bible, de comprendre ce qu'elle cherche à produire en moi, et que moi, avec un cœur humble, je vienne et je dis, Seigneur, voilà, je te dépose mes pensées à tes pieds. Seigneur, change mes pensées, s'il te plaît. Amener nos pensées aux pieds de Dieu pour chercher sa pensée, pour lui permettre à cette pensée de s'installer dans notre cœur, de nous libérer et de nous faire avancer. Notre relation avec Dieu, notre relation avec sa parole, frères et sœurs, ne peut absolument pas être une relation religieuse. Ça ne peut pas être un acte religieux. Ça ne peut pas être un acte superstitieux. Ça ne peut pas être des répétitions. Ça ne peut pas être de la récitation. Je voudrais quand même vraiment mettre ici tout le monde en garde, et aussi tous les gens qui écouteront le message plus tard sur Internet, et mettre les gens en garde contre deux ersatz, deux substituts, qui sont la méthode Coué et la pensée positive. Alors je sais très bien que cet ouvrage de Émile Coué, vous ne l'avez pas chez vous. Si quelqu'un l'a, vous me l'amenez s'il vous plaît, on se fera une joie de le brûler ensemble et je vous donnerai une Bible à la place. Mais vous n'avez pas cet ouvrage, mais c'est plus dans la façon, dans l'approche de la Bible, qu'on a parfois la méthode Coué ou qu'on a parfois l'approche de la pensée positive. Qu'est-ce que c'est la méthode Coué? Il faut qu'on comprenne. Coué, Émile Coué, c'était un pharmacien et un psychologue français. Il est né à la fin du 19e et il est mort au début du 20e siècle, dans les années 1920 et quelques après la Première Guerre mondiale. Vous vérifierez sur Internet, sur Wikipédia. Et cet homme, ce psychologue, ce pharmacien français, au début du XXe siècle, il va élaborer une méthode qui portera d'ailleurs son nom, la méthode Coué, C-O-U-E. Et il faut savoir que cette méthode est fondée sur l'auto-suggestion, auto-persuasion. Elle utilise la répétition, et j'ai trouvé ça, et c'est hallucinant, et c'est très grave, utiliser la répétition, je note littéralement, de prophéties autoréalisatrices. Autosuggestion. Prophétie, ça signifie prédire l'avenir. Et c'était des espèces de prophéties autoréalisatrices, faites par celui qui les dit, en l'espoir, à force de se les répéter, il va finir par s'en convaincre, et il va aussi, la méthode Coué était censée avoir des méthodes, des bienfaits curatifs, mais aussi préventifs. C'est-à-dire que si je me convainc de certaines choses, si je me convainc que je ne serai jamais malade, je ne serai jamais malade. C'est préventif. Si je me convainc que je vais être guéri, alors que je suis malade, je vais être guéri. Préventif et curatif. La méthode d'Émile Coué a fait succès dans cet ouvrage qui s'appelle « La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente ». Attention, c'est du lourd. Alors, je ne l'ai pas lu, je n'avais pas de temps à perdre avec ça, mais j'ai relevé quand même le mode de fonctionnement. Le sujet, la personne qui va se faire de l'autosuggestion, la personne, le sujet, prononce sous forme de litanie, de veine redite, le sujet prononce sous forme de litanie persuasive et machinale des phrases du genre, alors il y en a des dizaines, hein, des phrases du genre, tous les jours, à tout point de vue, je vais un peu mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais un peu mieux. Mais il y a des milliers de gens qui croient ça. Et il y a aussi parfois, malheureusement, c'est pas méchant, mais il y a parfois des chrétiens qui ont cette approche avec la Bible et qui s'imaginent que parce qu'ils vont répéter certains versets bibliques, ça ira mieux. Le sujet prononce sous forme de litanie persuasive et machinale toutes sortes de phrases et malheureusement parfois des textes bibliques. Il y a aussi quelque chose de très fort dans la pensée Coué. Je l'ai mis en bas ici. La pensée, l'étude, la méthode déclare aussi croyez en vous-même et vous obtiendrez du résultat. Quelle différence avec le message de la grâce de Dieu qui me dit en tout amour, arrête de rêver, je paraphrase, comprends que tu n'es rien, comprends que tu n'as rien, comprends que tu ne peux rien, mais que ma grâce pour toi et en toi va te donner tout ce que tu as besoin et même au-delà de ce que tu attends ou espères, parce que Dieu est le Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Et Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et vous voyez les ersatz du monde ? Croyez en vous-même et vous aurez du résultat. Et Dieu dit, si tu veux que ça marche, ta relation avec moi n'est pas une relation superstitieuse, elle n'est pas fondée sur des vaines redites, elle n'est pas, la foi, ce n'est pas de l'autosuggestion, ce n'est pas de la persuasion, ce n'est pas de la manipulation intérieure. La foi, c'est de croire ce que dit Dieu. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi, je me permets de rajouter, et vous aurez du résultat. La diapo suivante, un peu plus subtile, mais si je mets ça, c'est pas pour rien, parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui sont très 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 friands de ce genre de choses. Et là, il y a aussi un piège, qui est la pensée positive. Alors la pensée positive, perdez pas votre temps avec ça, mais si vous voulez vérifier ce que je vous dis, vous pouvez sur internet, il y a des tonnes d'ouvrages qui proposent, ce sont des substituts du monde pour essayer d'amener les gens dans leur mal-être intérieur à se sentir bien, à trouver des réponses. Le monde sait que ça ne va pas, on ne veut pas de Dieu et on essaye absolument d'essayer de trouver des solutions pour avoir une pensée qui va combler nos pensées de suicide. Il n'y a jamais eu en 2018 autant de suicides parmi les jeunes que maintenant. Et ainsi de suite. Alors, on tombe dans la pensée positive. C'est un piège évidemment, c'est pas bon du tout. Et alors j'ai pris celle qui me semblait la plus représentative de la pensée positive. Alors ça, ce que vous avez sous vos yeux à l'écran, évidemment, c'est pas bon, hein, c'est un contre-exemple, j'ai bien mis les pièges en haut. Des phrases du genre « Réveille-toi chaque matin avec la ferme conviction que quelque chose de merveilleux se produira. » Eh bien, vous pouvez vous lever tous les matins, je vous garantis, en vous disant que quelque chose de merveilleux va s'arriver. Le jour où votre patron va vous regarder en vous disant « Je suis désolé, t'es un super élément, mais la boîte, elle coule, c'est terminé, au revoir. » »« Oui, mais j'ai 56 ans, qui va me donner du boulot ?»« Je suis désolé, au revoir, c'est fini. » Vous pouvez vous répéter ça tous les matins. Vous n'empêcherez jamais votre médecin un jour de vous regarder, de vous dire « Ce que vous avez, madame, ça s'appelle un cancer. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La pensée positive ne mène absolument à rien. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens peuvent avoir une relation superstitieuse et prendre la Bible parce qu'il y a des promesses dans la Bible. Il y a des choses extraordinaires. Mais il ne faut pas en faire un mauvais usage. Il y a des gens, ils sont champions pour collectionner les promesses de Dieu, de préférence celles qui les arrangent. Et d'en faire ensuite de l'auto-persuasion. Mais je peux vous dire qu'il y a aussi des promesses de Dieu dans la Bible. Quand Jésus dit « Vous aurez des tribulations dans le monde », celle-là, je vous garantis qu'on l'a tous expérimenté. Hein. C'est une promesse, hein, elle se réalise. Et je ne peux pas avoir avec la Bible, pardonnez-moi, une relation superstitieuse. Il y a peut-être des fois des chrétiens évangéliques qui sont très fiers de ne plus avoir ces petits saints, ces petites croix, ces petits machins, ces rites, ces traditions. Ah nous, on ne va pas mettre un fer à cheval sur le pare-choc de notre voiture. Ben non, on ne ferait pas ça. Mais je connais des chrétiens. Alors ce n'est pas un péché, ça dépend de la relation de cœur. Mais je connais des chrétiens. Quand ils ont gravé le psaume 23 sur une plaque de bois et qu'ils l'ont accroché au mur à l'entrée de la maison, une fois, j'avais rencontré une sœur, une dame comme ça. Elle avait plusieurs versets bibliques accrochés sur des... Vous savez, ces beaux trucs en bois comme ça. C'est pas mal. Mais le problème, c'est que si je m'imagine que parce que ce texte, je l'ai écrit, que je l'ai accroché, et que tous les jours, je passe devant, je le regarde, et que tous les jours, je dis « ça va aller ». Ça va aller, ça va aller. L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Il me donnera sa paix, il me donnera sa paix. Mais j'ai vu des gens, excusez-moi, ils avaient le psaume 23 sur le plus beau des cadres accroché dans l'entrée à côté de la porte de la maison. C'était les gens les plus inquiets, les plus perturbés qui soient intérieurement. Parce que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ne veut pas la graver sur une plaque de bois, il veut la graver dans mon être intérieur, en tant que réalité de vie. Et je ne peux pas être là en train de me répéter des versets, en coller sans arrêt à mes murs, et l'Éternel est mon berger, et ceci et cela. Ça s'appelle de la superstition. La foi, ce n'est pas de la croyance. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ont bien du mal encore à faire la distinction entre la foi et la croyance. La foi, c'est pas de la croyance, c'est pas du déni de mes circonstances, c'est pas de l'autosuggestion, c'est pas non plus de la pensée positive. Tout, si on observe ce qu'est une croyance, tout dans le domaine de la croyance vient de celui qui croit. Dans le domaine de la foi, ça vient de Dieu. Et la grande différence entre la croyance, l'auto-persuasion, l'auto-suggestion, la pensée positive, la méthode Coué, ce que vous voulez, même évangélique soit-elle, la grande différence c'est que la croyance, tout dans la croyance, vient de celui qui croit. Il se fabrique quelque chose et il amène, c'est sa croyance. Et Dieu dit, Jésus dit dans sa parole, je suis l'auteur de la foi. Et c'est moi qui, dans ma grâce, la donne, la communique. Une fois que la foi est mise en action et qu'elle m'est retournée, Dieu est honoré, il est réjoui, il dit « et je vais rémunérer la foi, je vais la rémunérer », c'est-à-dire que je vais répondre à cette foi. Mais la foi vient de Dieu. La croyance vient de l'homme. Elle essaye de se fabriquer une pensée. L'homme se fabrique une pensée pour lutter contre une autre pensée. Et il essaye de s'en convaincre. La pensée, ça va être de préférence ce qui l'arrange, ce qu'il désire, tout et n'importe quoi pourvu que ça me convienne. Tout et n'importe quoi pourvu que ça me convienne. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant, frères et sœurs, parce que il ne faut pas prendre de la parole de Dieu que ce qui nous arrange. Sinon, on pourrait être vite tenté de basculer dans la méthode Coué, ou la pensée positive évangélique, et c'est pas ça du tout la foi. La foi, c'est croire Dieu. La foi, c'est croire sa parole. La foi, c'est la recevoir. La foi, c'est recevoir la parole, ce que Dieu est, ce que Dieu dit dans mon être intérieur. La foi ne fait pas en sorte qu'il ne m'arrive rien, ça c'est la superstition. La foi me permet de vivre une vie au-dessus des nuages. La croyance s'imagine qu'il n'y aura jamais de nuages, mais la foi est convaincue que combien même les nuages seraient nombreux et épais, la foi m'emmènera au-dessus des nuages. Et c'est toute une relation, une façon de vivre et de considérer les choses spirituelles, deux façons radicalement différentes de penser, la croyance et la foi. La foi, elle m'élève. La foi, elle me convainc. C'est Dieu qui me convainc. C'est pas moi qui me persuade, c'est Dieu qui me convainc. La foi, elle me rassure. La vraie foi me donne la paix. La vraie foi me donne la vie. La vraie foi me donne la joie. La vraie foi ne fait pas en sorte qu'il ne m'arrive rien. La vraie foi me donne un Dieu beaucoup plus grand que tout ce que je dois traverser. Et c'est là toutes les différences fondamentales entre la croyance et la foi. Je veux laisser la place à un témoignage. Tu peux venir, Cindy, s'il te plaît. Et j'aimerais que tu me racontes, enfin, que tu leur racontes le témoignage que tu m'as partagé il n'y a pas longtemps. Merci.
Bonsoir. Voilà, en 2011, j'ai attrapé une petite boule à mon sein. Et quand je suis allée faire cet examen, j'ai fait une mammo. Donc le monsieur m'a dit, faut faire une écho. Bon. J'ai fait l'écho, il a passé l'écho. J'ai vu sa tête, j'ai compris. je savais dans ma tête, c'était bon, j'ai un cancer, voilà. Mais ça m'a pas perturbé plus que ça. Hein. C'était comme ça. Donc il nous a dit, écoutez, faut faire une biopsie, on va voir hein, ce que c'est, on peut pas se prononcer, voilà. Bon. Donc, mon mari était très inquiet. Donc, pour lui, il s'est dit, ça y est, c'est bon, je vais perdre ma femme, comment je vais faire. Enfin, pour lui, c'était tout s'écrouler, hein, c'était vraiment, voilà. Donc, et il n'était pas converti, surtout. Donc, la soirée s'est passée comme ça. Moi, je suis partie à ma salle de bain, c'était souvent mon lieu. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, voilà, bon, je sais, c'est ça, je sais qu'on va m'annoncer la semaine prochaine que j'ai un cancer du sein, tu le sais même avant moi, mais j'ai pas peur, parce que je sais que tu es avec moi, j'ai pas peur, mais ce que je veux surtout, c'est tout ce que je vais passer, les traitements, tout ce qu'il y aura, parce que c'était un peu l'inconnu quand même, hein, on sait un peu ce qu'on va avoir, mais c'est pas dans les grandes lignes, ce que je veux, c'est que tu tiennes ma main. Et après, je sais que tu vas me guérir, mais je sais qu'il faut faire tous ces traitements, je le ferai. Mais ce que je veux, c'est vraiment tenir ta main et que tu sois toujours à côté de moi. Donc, je suis ressortie, mais avec une paix, mais quand on dit la paix qui surpasse toute chose, franchement, je l'ai vécu du début jusqu'à la fin, et même encore maintenant. Toujours dans ce cheminement de ce cancer. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux de pouvoir voir Dieu comme ça. Et donc, ça s'est passé. Donc, on nous a fait venir dans ce petit bureau. Donc, madame, vous avez un cancer. Bon. Le matin, je me suis dit, je le savais. Donc, sans plus, hein, franchement. Donc, mon mari est ressorti de là, mais je le voyais chercher sur Internet et tout. J'ai dit, stop, faut arrêter, je veux pas mourir. Je veux dire, maintenant, tu sais que je crois en Dieu. Bon, il avait déjà vu des choses et tout ça, hein, mais bon, voilà, hein, quand on n'est pas converti, on ne perçoit pas les choses de la même façon. J'ai dit, moi, j'ai tout confié au Seigneur. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y aura, s'il y aura opération, chimio, radiothérapie, je ne sais pas, mais tout est dans ses mains, et je sais qu'il sera avec moi, et je sais que je serai guérie, et je ne crains rien. Et à chaque fois que je me réveillais, j'avais toujours ce verset qui me revenait de Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Amen. Et donc, je me suis fait opérer, j'ai eu chimio, j'ai eu rayon, sur un an. Et donc, j'ai continué ma petite vie. Bon, c'est beaucoup. C'est vrai que quand on connaît Dieu, cette paix, c'est incroyable. Mais l'entourage qui ne connaît pas Dieu, c'est dur. C'est que mon mari, un boulot qui est très prenant. Donc, au début, il s'est dit, je ne vais plus pouvoir partir en déplacement, il faut que je reste là, on ne sait pas comment elle va être. Il a vu au fur et à mesure que j'allais bien, que je continuais ma vie, qu'il y a eu même, il vous l'expliquera peut-être mieux un jour aussi en son témoignage, parce que ça en fait partie, mais il a même mis, je crois, le cancer entre parenthèses, parce que il me voyait bien. Et puis après, ça a fait son cheminement. Et jusqu'au jour, il m'a dit, c'est pas possible, tu peux pas faire tout ça, tu peux pas vivre tout ça toute seule, c'est pas possible. Donc je sais qu'il y a quelqu'un, je sais que le Seigneur est là, et que quand tu me le dis que je le comprenais pas, je l'ai compris. Et donc, non seulement, j'ai passé la chimio comme ça, la radiothérapie, j'ai jamais été rouge, rien. C'était vraiment, cette présence de Dieu, quand je faisais les opérations, quand on m'a mis le cathéter, on est en salle, on s'endort et tout, et à chaque fois, je mettais toujours mes mains comme ça, mais je sentais la chaleur de Dieu entre mes deux mains comme ça. Mais c'est des moments, c'est... Peut-être pas le vivre dans la maladie parce que je souhaite à personne, mais de vivre cette... c'est énorme. Donc non seulement le Seigneur m'a béni dans tout ça, et mon mari est venu au Seigneur. Alors ça a été une joie multipliée par je ne sais pas combien, parce que quand on est seul dans le foyer pour prier, pour la vie de tous les jours, et quand on est deux... quoi, c'est quelque chose. J'ai du mal à l'expliquer et des gens ont du mal à comprendre. Et ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que l'année dernière, donc j'étais toujours encore en contrôle. Hein, je suis encore hein, parce que maintenant ça a passé à 10 ans, donc tous les ans. Et j'ai fait un scanner. Et le scanner, je suis ressortie, on m'a dit, on voit quelque chose au foie. J'ai dit, ah bon? Puis j'ai ressorti, je suis repartie, ma voiture, j'ai dit, je refuse, le Seigneur m'a guéri, c'est pas pour vous, impossible. J'ai dit, non, ça, j'en en veux pas, je refuse complètement. Et puis je suis restée dans ma paix, hein, ma paix. Le cancérologue me dit, bon, on va faire un IRM pour voir... J'ai toujours fait ce qu'on m'a dit, hein, jamais refusé. Donc on a fait l'IRM. Et puis à l'IRM, ils m'ont dit, bah non, il n'y a rien du tout. Voilà. Je n'ai pas voulu me laisser me voler cette paix, cette conviction que Dieu avait mis dans mon cœur. Non, j'ai refusé. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas, non. Et une chose aussi, c'est quand j'allais à tous ces examens, j'étais... Des fois, quand je le dis, il y a des gens qui me comprennent, mais il y a des gens qui ne me comprennent pas, parce que ben, j'allais avec mon petit lit, je m'assieds, je lisais, tout ça. Mais tranquille, j'ai jamais eu peur qu'on me dise bah, « attention ». Alors les gens me disaient « oh, mais tu dois être inquiète quand même, hein, quand on ne sait pas ben, ». Non, je ne suis pas inquiète. Mais c'est légitime. Ben non, non, je ne suis pas inquiète, je ne serai pas inquiète, je n'ai jamais été inquiète. Et ce n'est pas maintenant que ça va commencer, quoi. Quand on a ce rapport avec Dieu comme ça, c'est tellement fort que c'est. Enfin, on a vraiment un Dieu qui est grand et rien n'est impossible et c'est vraiment une joie. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Voilà.
Dieu s'est servi de cette maladie pour que Seb, que vous connaissez tous maintenant ou presque, arrive à la foi. Alors donc. T'as pas essayé la méthode Coué alors? T'as pas mis des versets partout dans ta maison non plus? T'as bien fait. Et Cindy a dit, vous avez fait attention, elle a dit j'étais en paix, plusieurs fois elle a dit j'étais pas inquiète, elle a dit j'ai pas peur. J'ai pas peur, c'est pas parce que je me suis répété, je suis guéri. Dieu est un Dieu de guérison, Dieu est un Dieu de guérison, Jésus guérit, Dieu est un Dieu de guérison, Jésus guérit, Dieu est un... Non! Ça, c'est de l'auto-persuasion évangélique. Comprenez la différence? C'est pour ça que j'ai voulu que vous entendiez ce témoignage. Mais c'est parce que Dieu lui avait dit. La foi, c'est simplement d'accepter ce que Dieu dit, de l'accepter de me conduire, de me faire passer par où il veut que je passe. La foi, c'est de voir les choses, avoir la pensée de Dieu sur une situation, de voir les choses comme lui, il les voit. J'ai pas peur, non pas parce que ça ne va pas m'arriver. Non, j'ai pas peur parce que je suis dans sa main, parce qu'il est souverain. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Amen.